Antenne, ding ding dong.
Ben merci beaucoup, merci Karl, merci à Amandine pour cette invitation qui compte énormément pour nous. Ding dang dongien, j'en parlerai un peu plus tard. Et ben moi pour commencer, je vais partir d'une histoire. Sans doute beaucoup d'entre vous la connaissent, mais bon, tant pis. Il était une fois une autre conférence dans un établissement de santé mentale. Nous sommes en 1923, en Suisse, dans la clinique de Bellevue. Le célèbre historien d'art Abby Warburg y est interné depuis plusieurs années pour de graves troubles mentaux. L'histoire que je vous rapporte ici est racontée par Joseph Leo Körner, qui est lui aussi un historien d'art. Alors, je le cite. La thérapie d'Abby conjuguait alitement, opium et analyse. Mais l'essentiel de la cure restait le travail. Le dur travail qui s'accomplit dans la conférence de 1923 et qui consistait à muer l'angoisse en pensée. Warburg avait arraché à ses médecins la promesse de le laisser sortir s'il réussissait à rédiger et à prononcer une conférence érudite sur le sujet de son choix. Pour cette conférence, Warburg décide de se replonger dans les observations qu'il a consignées lors d'un voyage entrepris 27 ans auparavant aux États-Unis et plus particulièrement dans le Nouveau-Mexique, chez les Indiens Pueblos ou appelés également Hopi. Il choisit de parler de deux rituels pratiqués par les Hopi, le rituel des antilopes et le rituel du serpent. Dans le rituel des antilopes auquel il a assisté, le chasseur devient ce qu'il veut chasser par l'intermédiaire de danse, de costumes et de masques. Je cite Warburg. L'Indien se glisse dans cet animal pour obtenir quelque chose de la nature par la magie, en métamorphosant sa personne, parce qu'il ne croit pas que sa personne puisse y parvenir sans être élargie ou métamorphosée. Warburg parle même à un moment donné de causalité dansante pour qualifier le lien entre ces humains-là et la nature qu'ils souhaitent influencer. Warburg passe ensuite au rituel du serpent, qu'il choisit comme titre à son exposé. Pour faire venir l'orage qui fera venir la pluie, absolument indispensable à leur survie dans cette zone ultra aride, les Hopi font un rituel où ils bravent un danger inouï. Attraper à main nue, puis danser avec un serpent vivant maintenu serré entre leurs dents. Pas n'importe quel serpent, hein, le serpent le plus dangereux qui soit, le serpent à sonnette. Abby dit que chez les Hopi, là je le cite, la sécheresse enseigne magie et prière, prière au pluriel. Et je trouve que c'est une très belle formule. Warburg n'a pas assisté directement à ce rituel-là, il a seulement assisté à la danse des antilopes, mais il a rencontré des personnes qui ont assisté au rituel du serpent et qui lui ont donné chaque détail, photo à l'appui. À la fin de son exposé, le propos de Warburg galope comme une antilope. Je le cite. « Ne pourrait-on pas dire que, lorsque dans leur désarroi, les hommes qui souffrent cherchent le salut, le serpent n'est pas loin ?» Comme image et comme cause explicative, il faudrait consacrer tout un chapitre au serpent dans la philosophie du « comme si ». Et il met des guillemets à « comme si ». Mais il ne dit pas ce qu'il entend par cette philosophie du « comme si ». Et l'éditeur du livre, Körner, n'en parle pas non plus. Et moi, ça m'intrigue énormément. Körner dit qu'à partir de l'analyse de ces rituels, Warburg élabore dans sa conférence une théorie de l'art qui entremêle et décloisonne des savoirs jusqu'alors strictement maintenus séparés, ne serait-ce qu'en rapprochant l'histoire de l'art, et l'anthropologie. Warburg prononce donc devant ses psychiatres, ses infirmiers et ses collègues patients une conférence sur la métamorphose de la frayeur en de la connaissance, perfectionnant au passage sa propre méthode d'exploration, le tout en œuvrant pour sa propre guérison. Non pas parce qu'il redeviendrait normal, mais parce qu'il a fabriqué du savoir à partir de son mode si spécial, si particulier d'appréhension du monde et de la connaissance. Sa recherche de la guérison implique un dispositif. Enquête sur un vieux terrain, scruter à la loupe des centaines de photographies, écrire ses notes à la main, les faire taper à la machine. Il a deux assistants pour l'aider pendant ces quelques semaines de préparation. Recomposer la démonstration encore et encore et, le jour J, la performer sans lire une seule ligne finalement de son texte. Il improvise complètement. Puis, tout jeter à la poubelle. Quelques jours après la conférence, il demandera explicitement à ses assistants dans une lettre que cette, je cite, « atroce convulsion d'une grenouille décapitée », c'est comme ça qu'il appelle son exposé, ne soit montré qu'à sa chère épouse, mais absolument rien de ces choses ne doit être imprimé. Le geste d'Abby relève de ce que certains collectifs d'usagers de la santé mentale contemporains appelleraient le « rétablissement ». Non pas guérir totalement, non pas redevenir comme avant, c'est impossible, mais regagner de la puissance d'agir, de penser et de liberté. J'ai une attirance existentielle et sentimentale, je pense que ça va avec, pour les personnes qui, comme lui, ont dû inventer des dispositifs afin de se sortir de leur mauvaise passe. Souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des dispositifs d'enquête et de fabrique de savoir. À l'issue de sa conférence, Abby Warburg est déclarée guérie et libérée. C'est sous les auspices de ce geste extraordinairement risqué et sincère que je m'exprime devant vous. J'ai de plus en plus de mal à raconter mes mésaventures telles qu'elles me sont arrivées, parce que, premièrement, il y a de la répétition dans l'air. Ça fait des années que je raconte ça, que j'écris sur ça, que je publie sur ça. Deuxièmement, ça présente un grand risque de créer du pathos. Et je suis complètement allergique au pathos. Bon. C'est pas si difficile à faire, je raconterai certains détails bien désespérants et hop, le tour serait joué. Mais ce n'est jamais innocent de créer du pathos. Moi, personnellement, ça me déforce, ça m'englue, ça m'empêche de penser avec puissance ce qui m'arrive. Je n'ai pas envie de m'infliger ça, ni de vous l'infliger à vous non plus. En même temps, si je ne raconte pas certaines choses, on ne peut pas entrer dans le vif du problème qui a été à l'origine des aventures qui m'ont conduite à fabriquer ce que Karl m'a demandé de raconter ici. Je discutais un jour, il y a quelques années maintenant, de ce problème avec Vincent Desmassier, qui est le président du réseau des entendeurs de voix en France. Ce réseau rassemble des personnes qui entendent des voix ou qui se sentent concernées par ces phénomènes et qui assume clairement le principe de considérer que ces voix et ces présences sont des expériences à prendre au sérieux. Ces personnes ne se considèrent pas comme malades, contrairement aux psychiatres qui les ont diagnostiquées schizophrènes, mais comme dotées d'un sens en plus, d'une capacité singulière, l'entente de voix ou d'autres expériences qui sont également prises en compte par le réseau, comme des visions, des bruits, des odeurs. Les entendeurs ne cherchent pas à éliminer à tout prix ces phénomènes, qui ne sont d'ailleurs pas éliminables, mais à comprendre en détail ce que sont ces phénomènes et ce qu'ils viennent faire là, ce qui leur permet d'imaginer avec énormément d'invention des manières efficaces de relation et de négociation avec leur voix. Vincent me dit qu'il ne peut pas y couper, qu'il ne se pose même plus la question, que lorsqu'il intervient publiquement, ça doit passer par le récit dans les détails de son histoire pour que les gens appréhendent le problème dans toute son étendue. Il n'y a pas de raccourci, dit-il. À chaque fois qu'il intervient, il prend une heure rien que pour ça. Je l'ai entendu plusieurs fois faire et je ne m'ennuie jamais de l'écouter. Mais je m'ennuierais trop, moi, à m'entendre vous raconter mon histoire répétée une énième fois dans ces longueurs. Alors je vais la faire courte, comme on dit, et parler ensuite surtout de ce que j'en ai fait. En 2006, j'ai appris que ma mère était atteinte d'une maladie évolutive rare, grave et incurable, la maladie de Huntington. Cette maladie qui ôte progressivement vos moyens, tant physiques que cognitifs, a la particularité de se transmettre génétiquement sans sauter de génération avec 50% de probabilité. Cette nouvelle représentait donc une espèce de paquet de catastrophes concaténées les unes dans les autres comme une œuvre de César. Ma mère est malade, j'ai une chance sur deux de porter le gène qui pourrait me rendre malade à mon tour, mes sœurs ont comme moi une chance sur deux d'avoir hérité de cette mutation génétique. Et si c'est le cas, alors leurs enfants sont aussi à risque. Il existe un test génétique fiable à 100%. Pour savoir si vous portez, oui ou non, le mauvais gène. On n'oblige personne à le passer, évidemment. Mais moi, je me suis sentie obligée de le faire. J'avais une trentaine d'années et il me semblait qu'il existait avec ce test un moyen de connaître ce que je pensais être la vérité, entre guillemets, sur ma personne. C'était irrésistible. Je ne pouvais pas faire autrement que de vouloir connaître cette information. J'ai donc passé ce test. Et j'ai obtenu un mauvais résultat, comme a dit la généticienne, qui m'a appris que je porte dans mon patrimoine génétique le gène de cette maladie. Cela ne veut pas dire que je suis malade aujourd'hui, mais comme il s'agit d'un gène à pénétrance complète, c'est le jargon, cela signifie que je vais inévitablement développer cette maladie entre l'âge de 35 et 50 ans. Et là, j'en ai 46. Ici, avec vous, je vais tenter de restituer certaines étapes par lesquelles je suis passée pour arriver à l'étape où je me trouve actuellement, comme on feuilleterait ensemble un album de souvenirs. Il y en a eu beaucoup des étapes, et je sais qu'il y en aura encore beaucoup. Je ne trouverai peut-être jamais la résolution de l'énigme qui s'est mise à hanter ma vie suite à cette annonce, mais chercher cette réponse m'entraîne dans un chemin sinueux que je peux, lui, tenter de restituer. Par énigme, je veux dire grosso modo ceci. Savoir à l'avance qu'on va développer quelque chose pour lequel il n'existe aucun traitement qui vous entraîne dans une métamorphose corps et âme jusqu'à une dépendance complète, ça, c'est un premier point. Mais surtout, quelque chose qui, à part ces symptômes que je vous ai résumés, n'est pensé en aucune manière. Il n'existait à l'époque de mon test aucun équipage spécifique pour penser cette métamorphose radicale et subite. Tout ce que j'avais à faire, tout ce qu'on me proposait, c'était de vivre, entre guillemets, au jour le jour, en attendant de dégénérer. Résultat des courses, je suis devenue phobique de mon propre avenir et allergique à l'expression « vivre au jour le jour ». Roland Barthes avait coutume de séparer ce qu'il appelait les difficultés d'être, douleurs existentielles, morales, angoisses diverses, de ce qu'il appelait les difficultés de faire, problèmes techniques dans son travail. La raison d'être de tous mes efforts depuis le début de cette histoire, c'est de trouver le moyen de transformer les difficultés d'être qui me donnent envie de faire la grève de la vie, séance tenante, et la grève c'est un truc très français, hein, dans le registre des difficultés de faire qui me donnent envie de m'y mettre séance tenante. Étant entendu que le travail est une prière, moi, je l'ignorais. Je pratiquais cette prière sans savoir que c'en était une chaque matin à l'aube, sous la couette, avec mon ordinateur et les chats qui chahutent tout autour. Et je ne l'ai compris qu'en regardant une série documentaire qui passe en ce moment sur Arte, de Gérard Mordillat et Bertrand Rothet, intitulée « Travail, salaire, profit ». Vers le début du premier épisode, Alain Supiot, juriste au Collège de France, raconte qu'il a une conversation avec Jean-Pierre Vernant sur les travailleurs de la Grèce antique. Le juriste demande à Vernon « Ton laboureur grec, le travail, quel sens ça a pour lui ?» Vernon réfléchit un moment et répond « Quelque chose comme une prière. Je suis inscrit dans un milieu vital, dans des forces qui me dépassent. J'œuvre. » Et Supiot a signalé quelques minutes plus tôt dans le documentaire que jadis on ne disait pas « travailler » mais « œuvrer ». J'œuvre et j'espère y trouver les moyens de ma survie. Formulée ainsi, ça ressemble à une méthode prête à porter, tout terrain, mais en réalité, cette transformation est à la fois très compliquée, requiert plein d'inventions et est très passionnante. Depuis la prédiction médicale il y a 13 ans jusqu'à aujourd'hui, je me suis mise à collectionner toute une série d'opérateurs qui peuvent aider à transformer tout ou partie des problèmes d'être en des problèmes de faire. Je les collectionne, si vous voulez, un jour je peux vous les... Vous m'écrivez par mail et je vous les enverrai. Heureusement, tant que je posséderai encore la compétence de lire ou de regarder ou d'écouter, la liste de tous ces déboucheurs de blocages existentiels ou techniques ne pourra qu'augmenter. Sans oublier le logiciel Word, si le copier-coller n'existait pas, si la fonction F n'existait pas, alors que je ne sais plus si j'ai déjà écrit quelque chose, ni si c'est le cas où se trouve le passage en question, et puis aussi enregistrer sous, eh bien, je serais foutue. Je ne blague pas, c'est vrai. Ou alors, comme Abby, il me faudrait 2 assistants pour préparer la moindre conférence, ce qui n'est pas envisageable. Parvenu à ce stade, il faut vous dire quelque chose d'important. Je suis un personnage de fiction. Mon autrice est porteuse de la maladie de Huntington elle-même, mais elle ne peut pas le dire en son nom. Elle n'en a pas honte, loin de là. Mais certaines caractéristiques de notre société actuelle font qu'elles doivent se planquer. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé à celles et ceux qui apprennent qu'il ou elle porte le gène lors de l'annonce. Restez discret, n'en parlez pas au travail ni sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas comment cette information pourrait vous revenir tel un boomerang dans la figure de votre demande de prêt immobilier, de votre souscription à telle ou telle mutuelle, de votre carrière dans une institution qui n'a pas envie de prendre ou de garder en son sein des personnes au devenir si incertain. Et puis, et c'est peut-être pour mon autrice ce qui la rend plus discrète encore, car cela fait belle durette qu'elle a fait le choix de ne plus travailler dans des institutions anormaux incompatibles, et puis avec Huntington, on n'est jamais tout seul à faire son coming out. Cela engage toute une famille dont les membres sont également à risque d'être porteurs du gène. Les frères, les sœurs, les nièces et les neveux, j'en ai parlé, les cousins et leurs propres enfants. Il faut être vigilant quant aux conséquences de ce que chacun dit vis-à-vis de tous les autres. Ça fait tout un monde à considérer dès qu'on parle d'avoir Huntington ou même de risquer d'avoir Huntington. Alors au début, qu'est-ce que mon autrice a fait de tout ça? Résumé de quelques épisodes. Prise numéro 1 du problème. Pile au moment où elle prend la décision de faire le test génétique, elle assiste à un concert de concerto de Mozart à Pleyel, à Paris. Et là, elle tombe amoureuse du pianiste. Il s'appelle Schumann. Elle manigance comme seule la recherche active et urgente d'un contrepoison peut la faire manigancer, et au bout de quelques semaines, ils sont ensemble. Sa vie, de cauchemar, se transforme en rêve. Elle aussi était une grenouille décapitée en train de convulser. Au contact de la musique et des baisers de Schumann, elle devient la princesse d'un pays où Huntington n'existe pas, où seule existe la musique et plus particulièrement le piano en train de se pratiquer par l'un de ses princes. Prise numéro 2 du problème, l'écriture. Elle essaye une énième fois de terminer le vieux roman policier qu'elle passe chaque été à écrire et à rater. Et cet été-là, quelques mois après le test génétique, elle se rend compte qu'elle ne parviendra jamais à tuer le personnage qui doit mourir pour que l'enquête démarre. Elle décide d'abandonner ce roman et dans la foulée, elle se met à écrire tout ce qui lui passe par la tête, sans avoir peur d'avoir le bon style pour la première fois de sa vie. Elle écrit et termine en quelques mois son premier roman. Dans les 2/3 du roman, elle écrit et découvre, du coup, hein, c'est ça la magie de l'écriture, d'où elle vient. Ses mondes originels, paternels et maternels. Et puis, dans la dernière et troisième partie, elle raconte le test génétique. Et le propos devient d'un coup plus documentaire et pas lyrique du tout, et surtout Furax de chez Furax. Elle envoie le tout à son éditeur, le seul qu'elle ait, Philippe Pignard, fondateur et directeur des Empêcheurs de penser en rond. Il ne publie pas de romans, hein, pas du tout. Mais c'est son éditeur et il a un regard à la fois terriblement exigeant et compréhensif sur ce qu'elle écrit depuis quelques années. Philippe lit le manuscrit, s'emballe, lui parle de prix Goncourt. Il fait lire le manuscrit à Annie Morvan, sa voisine de bureau, parce qu'à l'époque, les Empêcheurs de penser en rond étaient abrités par le Seuil. Et donc, sa voisine de bureau, qui est éditrice à la collection Le Cadre Rouge du Seuil. Annie Morvan, qui est aussi la traductrice française du maître absolu de mon autrice, Garcia Marquez, décide de devenir l'éditrice de ce premier roman. Annie aime beaucoup les deux premières parties, mais concernant la troisième partie, le fameux texte en colère sur le test, elle dit à mon autrice « ça va pas la tête hein. ». Tes histoires de maladie, ça n'intéressera personne. Faut que tu racontes une histoire d'amour, tu dois décoller. Mon autrice s'y reprend à 5 reprises pour parvenir à décoller. Elle ne le comprendra que des années après, mais décoller est justement l'inverse de ce qu'elle doit faire dorénavant. Ce qu'elle doit faire, c'est plonger. D'ailleurs, les Huntingtoniens avec lesquels elle discutera des années plus tard lui rapporteront quantité de rêves aquatiques. Devenir marin, apprendre à braver les tempêtes, avoir des branchies et respirer sous l'eau. Et puis Claudio, par exemple, qui, quand il sut que sa femme Sabine avait Huntington et que leurs enfants étaient à risque, a décidé de devenir pour de vrai navigateur, alors qu'il était prof universitaire. La nuit précédant son test génétique, mon autrice, elle, a rêvé qu'elle devenait un poisson volant après en avoir attrapé un tout frétillant entre ses dents. Mais bon, au moment de son premier roman, elle ignore encore tout ça et le livre sort sous le titre de « Réveiller l'aurore ». Moi, Alice Rivière, j'en suis le personnage principal et je finis sauvée par l'amour comme il se doit lorsqu'on décolle. Et que dis-je, lorsqu'on plane au-dessus de son gruau de problèmes. Le livre sort et n'intéresse personne. Dans ce texte orphelin, je parle de la troisième partie, après avoir exprimé sa colère contre la façon dont les médecins ont procédé pendant le test, mon autrice se tourne vers les psychologues et je vais vous le citer parce que c'est mon passage préféré. Mon indignation est encore plus grande face à l'attitude de la psychologie vis-à-vis de Huntington. Si la médecine considère que la production de pensées n'est pas son affaire, tant pis pour elle. Je suis par contre sidérée que la psychologie puisse adopter une position similaire. Comme partout ailleurs, la psychologie est utilisée dans le cadre du protocole du test de Huntington pour intervenir là où les compétences médicales trouvent leur butée. Au moment où elle doit remplir cette mission magnifique et ambitieuse, inventer du soin malgré tout, la psychologie se met à fonctionner elle aussi par défaut, me badigeonnant de notions préétablies et extraordinairement inadéquates comme celle de travail de deuil, entre guillemets, le travail de deuil. Elle aussi décide ostensiblement de me traiter comme du déjà connu, et ce faisant, elle œuvre pour la médecine et non pour moi, en renforçant avec ses outils psychologiques l'impact de la malédiction médicale. M'inviter à travailler le deuil de ma normalité est non seulement stupide, mais dangereux. Je ne suis pas encore morte. Je n'aurais peut-être pas dû naître, mais je ne suis pas encore morte. Aujourd'hui, il est recommandé aux femmes porteuses de la maladie, lorsqu'elles sont enceintes et qu'elles ont décidé de faire un test prénatal, d'avorter si ce test leur annonce que leur fœtus est également porteur de la maladie. Porter le gène de la maladie, c'est donc être contraint de vivre en cohabitation avec cette logique eugéniste. Mais moi, je ne suis pas morte. Et comme la plupart d'entre nous, je n'ai jamais été normale. Quand on me suggère de travailler le deuil de ma normalité, on me fait entrer dans un programme normatif de rétrécissement existentiel à long terme qui tue, avant même de les explorer, toutes les potentialités singulières contenues dans l'expérience de mon devenir Huntington. Fin de la citation. Dans la version de l'époque, le texte se terminait plus ou moins ainsi. Il faudrait un collectif de Huntingtoniens pour penser à nouveau frais toute cette histoire, depuis le protocole du test jusqu'aux mille et une manières d'être Huntingtonien. Mais un collectif, ça ne se décrète pas. Philippe Pignard, qui est décidément, on le voit, une des fées de mon autrice, de nombreuses fées, a envoyé ce texte, sans le dire à mon autrice, à Isabelle Stengers, qui, lui a envoyé la lettre suivante. Isabelle Stengers, email, novembre 2006, à Alice Rivière. Juste un extrait. La question du collectif à créer, cela ne se décrète pas, mais cela peut se dire en termes de nécessité immanente, de faire à faire ou d'œuvre à faire en réponse à l'énigme. Étienne Souriau campe le créateur comme pris par l'énigme du sphinx. Devine où tu seras dévoré. Sachant que le sphinx ne connaît pas la solution de l'énigme, il est l'opérateur de la situation questionnante. Donc, peut-être que tu as raison, poursuit Isabelle, que cela ne se décrète pas, mais cela peut être fabulé, appelé, d'autant que cela peut te permettre de, entre guillemets, pardonner aux médecins, de les camper comme ayant vitalement besoin d'un tel collectif. Parce que où trouverait-il la force de fabriquer une réponse à une situation mise en effet sous le signe du quiconque, s'il pouvait être nourri, s'il cessait d'être écrasé, s'il pouvait parler de tels collectifs qui sont aussi des lieux d'initiation où on sait quelque chose de ce qui doit être fait, ils pourraient peut-être fabriquer leurs propres paroles non en mime, mais en contrepoint. C'est lorsque tu parles du collectif que quelque chose comme de la joie, de la vie, passe dans ton texte. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est peut-être trop précieux pour ne pas se demander comment accueillir, nourrir, accepter qu'un être, qu'il s'agit de savoir nommer, t'a requis. Et je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un destin. Parfois, je pense à la nouvelle de Borges, la loterie de Babylone. Ou si c'est un destin, c'est une question aussi. Ce sera donc ça, mais le sens du ça reste indéterminé. Je t'embrasse très fort, Isabelle.